Monsieur le Président, Madame Chirac Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le temps, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse, tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin, il a rien aux zizi, tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage.
Quand tu es prêt.
Vas-y. Je suis prêt.
1, 2, 3. Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une grande militante et une personne exceptionnelle, Sabine Landré. Sabine, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler d'une librairie et de ta vie. Alors, d'habitude, je recommence. Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une militante exceptionnelle et une personne hors du commun, Sabine, Sabine Landré. Sabine, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler d'une librairie. Alors, d'habitude, je parle toujours de notre librairie, la librairie du Monde Libertaire Publico, mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre librairie qui est exceptionnelle, elle aussi, dans le 13e arrondissement, et d'une association qui la soutient. Alors, Sabine, tu as commis en 2007 un excellent ouvrage, L'année des cocktails, quand on brûlait les livres, avec une préface de François Maspero, chez HB Éditions. Alors, pour nos éditeurs jeunes, qui ne connaîtraient pas François Maspero, est-ce que tu peux le présenter, s'il te plaît?
Oui, François Maspero, c'était un éditeur de grande qualité. Il a créé sa maison d'édition dans les années 70, oui, juste après les événements de 68. Et il a mis en valeur des auteurs peu connus, certains peu connus, mais d'autres beaucoup plus connus. Donc il a fait un travail d'éditeur très très intéressant, branché beaucoup sur, bien sûr, sur les événements de la gauche française, mais aussi sur le monde, enfin sur la politique mondiale. Donc c'est un éditeur qui a eu un rôle important dans la vie politique de ces années 70-80.
Alors, comment tu l'as rencontré, ce monsieur Maspero ?
Nous nous sommes rencontrés, c'est parti de la librairie, parce que la librairie Jonas, qui a été créée en 57, faisait partie d'un réseau de libraires, on a pu les appeler les libraires différents, on les appelait comme ça, un certain temps. Puis après, bon, on s'est créé un groupe de libraires qui étaient sur le même idéologie, les mêmes projets. Et bon, c'est un peu comme ça qu'on a connu Maspero, et qu'il est venu à la librairie, qu'il a découvert la librairie. Et bon, c'est à la suite de ça qu'on lui a demandé la préface pour le livre présenté aujourd'hui, L'année des cocktails.
Voilà, quand on brûlait les livres. Voilà. Alors, Françoise Maspero parlait de la librairie comme étant une librairie où on pouvait compter, pendant la guerre d'Algérie, sur sa présence et sa diffusion de livres qui étaient systématiquement censurés. Est-ce que c'est le cas pour...
Oui, c'était le cas, en particulier la question.
D'Henri Allègue.
D'Henri Allègue, oui. Et puis un peu plus tard, d'autres ouvrages.
Alors oui, il les cite, tous les ouvrages François Maspero, de la guerre d'Algérie, page 13, oui. Très précisément. Alors, je vais les citer. Alors, page 13. Alors, ils avaient publié entre autres La question d'Henri Allègue.
Oui, c'est ça, oui.
Les éditions Pierre Ouvala, les éditions Français réunis avec le récit d'un jeune soldat,
oui.
Le gâchis, moi-même avec les livres de France Fanon, ou Le devoir à l'insoumission. Voilà, c'était les livres qui suscitaient l'ire du gouvernement et des politiques de l'époque. Et on censurait systématiquement les éditeurs. Et il fallait trouver des librairies relais qui allaient permettre de vendre sous le manteau ces ouvrages. Et la librairie dont on va parler aujourd'hui, librairie mythique du 13e arrondissement, que tu vas nous présenter, Sabine, puisque c'est toi qui l'as fondée, permettait de diffuser ces ouvrages. Alors, on en vient à l'objet donc de la première partie de notre émission, présenter la librairie Jonas. Pourquoi Jonas D'après un prophète, quand même.
Oui, alors, je vais expliquer. À cette période, nous fréquentions, entre autres, une paroisse de la Mission de France, qui était donc une paroisse très progressiste.
Et il n'y avait que des prêtres ouvriers.
Oui, il y avait aussi les prêtres ouvriers. Et donc, à cette période, en parlant du projet de la librairie, un des membres de cette communauté m'avait évoqué l'histoire du prophète Jonas. Le prophète Jonas, qui a été un prophète à qui on avait confié une mission difficile, parce qu'il fallait aller porter de mauvaises nouvelles à la ville de Ninive. Et donc, on nous a comparé, parce que le projet de la librairie dans un quartier aussi populaire, ça paraissait complètement à côté. Enfin, ça paraissait quelque chose de prophétique, effectivement.
Alors, donc, quand tu parles du 13e arrondissement, Tu parles en tant que arrondissement où il y a eu des insurrections mémorables. Donc, la butte aux cailles pendant la Commune de Paris en 1871, c'est le général Wrobleski, c'est le dernier général qui a mené l'insurrection et qui a permis, et les barricades ont été les dernières à tomber au niveau de la butte aux cailles pendant la Commune de Paris. Pendant la Commune de Paris. Et tu parles aussi de la deuxième insurrection qui est la cité Jeanne d'Arc. Page 40. Les gens ne voulaient pas être expulsés de leur bidonville. Et le député André Marty, qui était le député du 13e arrondissement, les soutenait dans leur insurrection.
Absolument. Je dirais que le Parti communiste était très, très puissant dans le 13e à cette époque-là. Et donc, André Marty en était un membre. Et il a énormément défendu. Il a énormément défendu les habitants du 13e par rapport justement à l'habitat, parce qu'il y avait beaucoup de... Bon, la cité Jeanne d'Arc, c'est quelque chose de très... Enfin, c'est connu dans l'histoire du 13e, et c'était vraiment une cité de personnes qui avaient vraiment très très peu de moyens, et c'était vraiment des lieux
emblématiques.
Emblématiques, voilà.
Alors, présente-nous la librairie Jonas, les 23 premières années. Comment vous avez réussi à avoir le capital, à sélectionner les livres? Les 23 premières années, comment se sont-elles
déroulées? Alors, les 23 premières années, c'était très... Ça, comme je l'ai dit, ça paraissait vraiment prophétique de vouloir vendre des livres dans ce quartier où, rappelons-nous, les gens qui vivaient là avaient un niveau de culture proche du certificat d'études. Donc, on se disait que vendre des livres dans ce quartier, c'était quand même un défi. Donc, au début, on a été beaucoup, beaucoup autant disquaires que libraires. C'est ce qui nous a quand même permis de tenir le choc. Parce que là, les disques, même si les gens avaient peu de moyens, c'était une dépense qui était un peu prioritaire pour eux. Alors que les livres, non, c'est du luxe, les livres, pour les gens du quartier.
Alors, comment vous sélectionniez les disques et les livres?
Alors, les livres, les sélections se font beaucoup avec les éditeurs quand même. Et donc, nous avions des éditeurs phares, hein, comme Asperos, et puis des petits éditeurs moins connus. Mais c'est vrai qu'on consacrait beaucoup, beaucoup plus de choix dans les éditeurs des petits, enfin les livres des petits éditeurs. Maspero n'était pas encore un grand éditeur, mais enfin il commençait à être quand même très très connu. Et puis les éditeurs, il y avait des éditeurs anarchistes, effectivement. Il y avait des...
Alors, lesquels anarchistes? Ça nous intéresse. Est-ce que tu t'en rappelles, peut-être, Sabine?
Est-ce que je me rappelle des noms des éditeurs?
Ça remonte à un moment.
Les éditions de la cerise...
Le temps des cerises.
Le temps des cerises, oui, c'est ça.
Voilà, tout à fait.
Le temps des cerises.
Oui, ça c'est vrai.
C'était un éditeur qui comptait pas mal de livres...
Anarchiste,
oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait comme éditeur? J'ai dit Maspero, qui était quand même quelqu'un... Enfin, c'est un éditeur qui avait pour nous une priorité. Et puis, Maspero, c'était aussi là... Il écrivait beaucoup sur le colonialisme.
Oui.
Énormément.
C'est l'éditeur de France Fanon.
Oui.
Pour les jeunes qui ne connaîtraient pas France Fanon, il est vendu à la librairie Jonas, mais il est vendu aussi à Publico. Donc vous pouvez aller dans les deux librairies sans problème, découvrir France Fanon. On en a même fait une BD pour le jeune public, pour leur permettre de rentrer dans l'univers de France Fanon. Voilà. Alors, les 23 premières années sont relativement sur le mode du défi.
Oui.
parce que le livre, pour vous, ce n'est pas un objet anodin.
Non, c'est... Et puis, bon, je peux le dire à n'importe quel moment, d'ailleurs. Avant d'ouvrir la librairie, j'avais quand même pris la mesure de...
La difficulté.
La difficulté, mais aussi de l'attachement que je pouvais avoir à ce quartier. Je pense que je n'aurais pas fait ça ailleurs. C'est important pour moi. J'avais déjà une vie militante dans ce quartier.
Alors, présente-la, cette vie militante. Parce que j'ai ouï dire qu'il y avait le Canard du 13e, il y avait...
Il y avait des journaux, oui.
Voilà, tout à fait. Présente-nous cette vie militante. Parce que tu l'évoques en marge du livre, mais il faut vraiment lire tout le livre en filigrane pour se rendre compte que tu es derrière le Canard du 13e, par exemple.
Par exemple. Le Canard du 13e, il y avait le 13e en lutte. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Ben, le 13e en lutte, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est un petit journal qui se voulait quand même assez militant. Et branché sur des réalités du 13e. Bon, le Canard, c'était un peu plus...
Intellectuel.
Non, je dirais plutôt... C'était plus anarchiste, quand même.
Ah, c'est très bien.
Les Canards du 13e, oui, ils avaient une permanence... ils avaient une permanence dans le 13e, rue Barrault. Et c'était quand même plutôt la famille anarchiste, à mon avis.
Bien, parfait. Donc, on s'en rappellera. Et donc, au point de vue militance, qu'est-ce que tu faisais d'autre ? Parce qu'il n'y a pas que le Canard du 13e dont tu t'occupais.
Non, il n'y a pas que le Canard du 13e. Comment ça a commencé ? Ça a commencé avec des groupes femmes. Il y a eu des groupes femmes. Il y a eu des groupes femmes. Il y a eu des groupes un peu qui regroupaient des familles du quartier. Et puis, il y a eu aussi des terrains d'aventure.
Tu avais une propriété où tu cachais les femmes qui fuyaient les violences conjugales. Ça, tu l'évoques bien dans ton livre, avec leurs enfants.
Est-ce que c'était... Je ne pense pas que c'était sur le 13e.
Mais ça fait partie des luttes que tu as menées.
Oui, bien sûr, parce que... Bon, ben parce que... On avait l'oreille... Sur la vie des femmes dans notre quartier. Donc, on était liés au lieu qui pouvait les recevoir. Mais bon, c'était spécifiquement une activité du 13e.
D'accord. Bien. Donc, on va donner l'adresse de la librairie Jonas, parce que j'ai oublié de la donner.
Alors, c'est 14 et 16 rue de la Maison Blanche.
Dans le 13e.
Dans le 13e, oui.
Bien. Donc, alors, tu as fait partie d'un réseau de librairies et tu en parles dans ton livre. On va peut-être, je ne sais pas si Jean-Michel me fait un signe pour une pause, on va parler de d'autres librairies parce qu'il t'arrive quelque chose le 9 mars 1981.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. sûr, dedans nos maisons blêmes, tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par « Je t'aime, vienne, vienne alors, vienne l'âge d'or. »
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission de groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Sabine Landré. Sabine, je te reçois pour ton excellent livre, L'année des cocktails, quand on brûlait les livres, avec une préface de François Maspero aux éditions HB Éditions. Alors, le 9 mars 1981, tu reçois un coup de fil d'Alain Lipietz. La librairie Jonas est en feu.
Voilà. Donc Alain Lipietz, qui était un grand ami, qui passait par hasard devant la librairie, parce que c'était, il habitait pas loin. Et donc, on reçoit un coup de téléphone. Jonas est en feu, Jonas est en train de brûler. Voilà. Donc, évidemment, on court sur les lieux.
Oui.
Et déjà, je parlais un peu du téléphone arabe.
Oui.
Déjà, très peu de temps, il y avait une foule sur le trottoir. Comme si...
Tout le quartier était au courant.
Voilà, comme s'il y avait, je sais pas, un tam-tam mystérieux qui avait retenti dans tout le quartier. Moi-même, j'étais très étonnée de voir cette foule, alors que ça s'était passé très peu de temps avant, quand même.
Alors, quatre cocktails Molotov dans la vitrine de la librairie Jonas et le feu. Alors, pourquoi?
Alors, j'ai envie de recentrer sur la période. Parce que nous sommes la 42e victime.
Oui.
Hein, c'est important.
Il y en aura 54 en tout.
Oui, c'est ça.
54, d'après oui. Ton livre.
Donc, c'est une période où ceux qui s'attaquent à la gauche, au mouvement politique et aux mouvements syndicaux de gauche, ceux-là, on leur a jamais trouvé de visage. En fait, on ne l'a jamais rencontré. Mais on peut en faire le tableau par des descriptions, par des journaux, des tracts aussi qu'on a pu recevoir, et puis des coups de téléphone aussi, parce qu'on en a reçu quelques-uns, de nuit comme de jour.
Donc la librairie était déjà menacée depuis un certain temps.
Oui, disons que puisqu'on est la 42e victime, il y en avait déjà eu 41. Alors ces victimes, c'était soit des librairies,
soit des cinémas, soit
des éditeurs.
Voilà.
Le cinéma, il y en a eu deux ou trois.
Alors, avant vous, il y avait la librairie Millefeuille, en août 80, qui a été incendiée, brûlée.
Brûlée.
Et vous, et après, c'était la librairie Jonas.
C'est ça, oui. Donc, c'est vrai qu'on a un peu fédéré tous ces lieux victimes d'attentats. On a créé une association Fahrenheit. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler.
Oui,
pas.
Bien sûr, tu peux en parler. Fahrenheit 400... comme le
livre
de...
Oui.
De Bradbury.
De Bradbury, oui.
C'est
oui.
la température Fahrenheit 481.
Oui.
C'est la température à laquelle brûlent les livres.
C'est ça, oui, oui, oui. Et c'était, bon, extrêmement impressionnant quand même. Bon, la librairie, on parlera peut-être plus après l'état de la librairie, parce que j'en parle maintenant, je sais pas. Bon, elle a été complètement, vraiment complètement brûlée et saccagée, parce que les pompiers, ils sont arrivés. Et les pompiers ont fait, je crois, plus de dégâts encore, parce qu'ils ont, ils ont tout arrosé. Donc, c'était...
Bah, quelque part, ils n'avaient pas tellement le choix si vous voulez éteindre l'incendie, ouais. Sabine.
Ben oui, maintenant, on a des poudres, maintenant.
Oui, c'est vrai, mais à l'époque, ouais. C'était ouais. pas le cas. C'était pas le cas. C'était
donc,
pas le cas.
Donc, c'était vraiment une librairie saccagée. Et... Bon, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que tout le quartier accourt en peu de temps, parce que ça a été le cas, quand même.
Est-ce que c'est parce que tu as sous-estimé l'impact de la librairie au fil du temps sur le quartier, le 13e ?
Ah oui, moi je pense, oui. Parce que la librairie avait quand même créé beaucoup de liens. Hein.
Oui.
Avait créé beaucoup de liens.
Avec les enfants.
Avec les enfants, avec la vie associative, avec les rencontres, avec les fêtes, enfin tout ce qu'on avait pu.
C'était un lieu incontournable. Jusqu'au 9, les gens se sont sentis dépossédés. Ça, tu le montres bien dans ton livre. Avec oui. ces quatre cocktails de Molotov, oui. ils ont senti qu'on s'attaquait à eux. D'ailleurs, tu le dis bien, quand on brûle les livres, on brûle les idées. Quand on brûle les idées, on brûle les hommes.
Oui.
C'est page 44 de ton livre.
Oui, oui. C'est comme ça qu'on l'a ressenti, d'ailleurs. Au fil des jours et au fil des minutes, parce que je dis dans mon livre aussi, c'était un quart d'heure qui a duré des siècles. Enfin, le début de l'attentat, les premiers moments où on s'est retrouvés à la librairie, c'était quand même un moment très très fort. Hein. On a vu vraiment un nombre de gens qu'on connaissait ou qu'on connaissait pas. Donc c'était quelque chose d'assez fantastique.
Tu en parles encore, alors que ça s'est passé en 81. Nous sommes en 2023, c'est comme si c'était hier.
Oui, c'est vrai.
Bien. Alors, donc, très vite, vous comprenez que ce sont des... On vous apprend que ce sont quatre cocktails Molotov qui ont été balancés contre la vitrine. Donc, les livres sont
noyés.
D'ailleurs, tu donnes même le nom de certains qui sont venus dans la librairie juste avant.
Oui.
Je pense à Italo Calvino, oui. Gabriel Garcia Marquez, Pierrot, celui qui est tout le temps là pour vous aider, qui vous donnait un coup de main.
Pierrot, c'était notre coursier, mais bon,
voilà.
Il faisait partie de la famille.
Mais surtout, très vite, tu montres que le quartier, il y a eu deux attitudes. Il y a eu la solidarité immédiate, et il y a eu ceux qui se sont dit, après tout,
ils n'ont pas volé.
Ils n'ont pas volé parce qu'ils font de la politique. Et donc, tu as aussi bien des commerçants qui pourtant ont bénéficié de l'apport de la librairie. Même au moment de l'incendie, puisque les gens sont venus acheter massivement dans leur boutique tout autour pour faire de la solidarité, qui ne se sont pas déplacés. À part le pharmacien...
Le bijoutier.
Voilà, le bijoutier. Et par contre, tes voisins, même certains de tes voisins, je pense à la voisine, tu avais oublié un sac avec des poireaux et des carottes,
oui.
qui te téléphone pour te dire attention, vous avez peut-être oublié une bombe sur le palier.
Oui, oui, ça c'était avenue des Gobains, là où j'habite toujours d'ailleurs.
Voilà, bon, par contre, il y avait une Germaine dont tu parles avec émotion,
oui.
qui appliquait plus que la solidarité des commerçants, c'est-à-dire qu'elle était. Elle avait un bistrot et elle ne servait pas les gens qui n'achetaient pas chez toi.
Voilà. Quand elle avait un client qui avait un sac marqué d'une autre librairie, elle ne nous sert pas. Voilà. Donc, elle ne servait pas. C'était quand même très, très curieux. Et donc, c'était une vie de quartier qui n'a rien à voir avec un quartier d'aujourd'hui.
Tout à fait.
C'est vrai, c'était un quartier où bon, les gens se connaissaient, buvaient souvent ensemble, c'est vrai. C'était beaucoup plus populaire en plus. Le quartier, il s'est gentifié, comme on dit. Il est devenu beaucoup plus... comme tout Paris, d'ailleurs.
Voilà. Alors, donc, la solidarité, ça va de... des 3 SDF qui donnent 1 franc dans la caisse de solidarité à Barbara qui envoie un chèque, un joli mot, et un chèque de 3000 francs.
Oui, oui, oui. Voilà. Mais c'est très émouvant. C'était très émouvant parce que dans le quartier, il y a des... l'armée du salut, enfin.
Oui.
L'armée du salut, alors les hommes, ils travaillent, ils sont un tout petit peu payés. Et l'un d'eux déposait tous les mois de l'argent dans la caisse de solidarité. C'était une caisse qui était prévue pour les différents lieux victimes d'attentats.
C'était oui, tout à
que,
fait.
C'était pas que pour la librairie Jonas.
Tout à fait. Voilà. Et tu rappelles aussi qu'il y a eu malheureusement une personne qui a été assassinée, c'est le directeur de la librairie arabe.
Oui, oui. Oui. Et puis une personne qui a été blessée aussi à la librairie chinoise. Bon, elle. Mais c'est une librairie qui faisait partie de notre réseau.
D'accord. Ce qu'il y a de bien, c'est que très tranquillement, tu annonces le réseau de gens qui vous aident. Ça va aussi bien de François Châtelet.
Oui.
Bon, oui. Ma génération connaît François Châtelet.
Oui.
Si tu veux dire quelques mots pour l'expliquer à la génération qui nous écoute et qui est un peu plus jeune.
Oui. François Châtelet, c'est un philosophe. Il se trouve que en mai 68, on l'a rencontré quasiment sur le trottoir. Et il s'est retrouvé que mon ex-mari avait été dans le même lycée.
Jean-François de Sailly.
Voilà, et ils se connaissaient, ils se sont retrouvés avec bonheur d'ailleurs. Et donc...
Et ils ont formé un même élève, Alain, le philosophe Alain.
Alain Lipietz, oui. Alain Lipietz qui dit, alors, qui a donné un devoir particulièrement brillant à François Châtelet. Et comme note, il a eu « merci ». C'est pas mal.
Excellent. Ouais. Ça, c'est typique de l'éducation d'avant.
Oui.
Maintenant, les parents seraient montés au créneau pour exiger une note en bonne et due forme. Bien. Alors, tu parles aussi de l'atmosphère politique qu'il y avait en 81. Tu la compares à l'atmosphère qu'avait décrit Jean Renoir dans La vie à nous.
La
vie est à nous, pardon.
Oui.
Dans son film, y compris le film suivant qui est La Marseillaise, qui l'a obligé à quitter la France pour partir aux États-Unis pour faire la carrière qu'il a faite ensuite, avant de revenir en France. Il y avait un climat fascisant.
Oui.
On s'attaquait vraiment physiquement et on s'attaquait physiquement à ses adversaires. Et donc, d'où le titre de ton livre, L'année des cocktails, quand on brûlait les livres.
Oui, oui. Oui, c'est effectivement une autre ambiance que celle qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui. C'était une ambiance... le fascisme avait un visage.
Oui.
Et je pense que pour les gens d'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce soit si clair.
On est d'accord. On est d'accord. Avec la novlangue et tout le reste, on peut dire que Orwell, ce que Orwell décrivait dans 1984, est arrivé. Et même est arrivé au-delà de ce qu'il pensait. Avec les techniques de vidéosurveillance.
Oui. Oui,
et voilà, et tout le reste. Bien. Donc, votre réseau a des relations et essaye que la presse s'empare de cette affaire et qu'elle en parle. Alors, il y a même des gens qui ont essayé de convaincre Pivot, Bernard Pivot.
Oui, on a essayé.
Alors là, j'ai été déçue. Je pensais que Pivot, le chancre de la littérature à la télévision, vu qu'on s'attaque à une librairie, vous recevrez. Né que nenni.
Il ne nous a pas reçus, mais bon, je crois qu'il a parlé un petit peu quand même de nous.
Alors, le... Donc, apostrophe, exit.
Oui.
Il y a... Donc, tu parles aussi d'une réunion à Arcueil, animée par le défunt et grand ténor du barreau, Maître Jean-Jacques de Fény.
Oui. Et j'en parle parce que c'était... c'est une communauté Arcueil qui avait invité Jean-Jacques de Félicé. Et donc, je crois que lui aussi, il nous avait invités aussi pour qu'on parle de l'attentat. Et oui, je parle de. Bon, je parle d'un fait divers d'ailleurs.
Tout à fait.
Oui.
Alors, Maître Jean-Jacques de Félicé était allé à Arcueil. Arcueil, bastion communiste. Et Arcueil, j'en parle aujourd'hui avec émotion, parce que le 29 mars, à Arcueil, on commémore systématiquement l'assassinat d'une femme qui avait été hébergée et recueillie par la mairie d'Arcueil, qui est la représentante politique de M. Mandela à Paris, qui est Mme Dulcie September, qui a été assassinée de 5 balles dans la tête, rue des Petites Écuries, dans le 10e arrondissement, devant le bureau de l'African National Congress, dont elle était la représentante à Paris. Donc Arcueil, c'est une ville émouvante pour cela. Donc tous les 29 mars, ils font quelque chose devant son domicile qu'elle occupait à Arcueil. Il faut le savoir. Donc j'avais reçu d'ailleurs dans l'émission l'année dernière... Anver, le réalisateur qui a sorti un film sur elle, Murder in Paris, et il va être diffusé encore en France à l'occasion de la commémoration de son assassinat. Bien. Alors, il y a un moment très émouvant dans ton livre, sur lequel on va revenir, et après on va passer à la troisième partie, c'est la victoire de la gauche, que tu évoques de façon, éblouissante.
Ah. Merci. C'était la victoire de la gauche, c'est vrai que c'était quelque chose qui a traversé la librairie aussi, bien sûr. Parce que je crois que tous les événements importants traversaient la librairie.
Tout à fait.
Et nous révélaient des personnes... qui venaient, mais qu'on n'avait pas découvertes. Parce qu'il y a des personnes qui sont très discrètes. Et à cette occasion-là, elles se sont révélées. Il y a vraiment des gens qui étaient très, très émus par cette victoire de la gauche.
Elles soulevaient tellement d'espoir.
Très émus. Beaucoup ne se faisaient pas trop d'illusions, quand même. Mais bon, c'était quand même... quelque chose de fort.
Tout à fait. Bien, nous allons faire une pause, Sabine, et nous allons revenir en troisième et dernière partie sur la librairie aujourd'hui, et tu vas expliquer avant cela comment vous avez réhabilité la librairie et pourquoi elle est encore aujourd'hui la librairie Jonas.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, où les morts. Et depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage, à peine vus déjà disparus. Mais à travers à votre image, c'était vous déjà, et le cœur nu. Je refais à mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route. C'est le lac qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et je calme ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais tant d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert leur porte. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fus infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fût doux, pour qu'il me fût doux ce premier sourire de vous, et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour, vous souvenez-vous, ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous? À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on prétend dire, je tenais à je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venue pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de l'émission avec Sabine Landré pour son excellent ouvrage « L'année des cocktails, quand on brûlait les livres » avec une préface de François Maspero chez HB Éditions. Alors Sabine, dans ton livre, une majeure partie du livre est consacrée à la Renaissance de Jonas. Tu expliques comment ça a été dur de se redresser après ces cocktails. Et d'autant plus que ça n'a pas été le seul attentat contre la librairie. Est-ce que tu peux nous expliquer ceci?
Oui, mais j'ai expliqué un peu le contexte. Le premier attentat, c'est celui dont on parle beaucoup dans ce livre, parce que c'est celui qui a vraiment détruit la librairie. Mais il a été suivi de deux autres attentats qui, eux, auraient pu atteindre le moral. Parce que c'était des attentats qui étaient, on nous disait au téléphone, la nuit, on va recommencer. Donc, il y a quelque chose de très angoissant quand même. On va recommencer. Donc, Ils ont recommencé. Qui on sait? On ne sait pas vraiment. C'était un deuxième attentat. Et puis, on a eu encore des menaces la nuit, beaucoup. Et il y a eu troisième attentat. Bon, donc c'était quand même, sur le plan nerveux, c'était une épreuve.
Oui.
Une épreuve d'avoir... Bon, pourquoi... Qui
On ne l'a jamais su, finalement.
On ne l'a jamais su. On imagine, on a beaucoup pensé à un groupe d'extrême droite de la faculté d'Atlas.
D'Assas.
Mais bon, on n'a aucune preuve, mais... On a imaginé parce que ça ressemblait à leur façon de faire.
Tout à fait.
Voilà, donc, s'ils ont fait ça ailleurs, voilà,
ils ont sévi pendant très longtemps.
Comme je l'ai dit, on était la 42e victime, donc...
Ils ont sévi longtemps.
Oui, ils ont sévi longtemps, oui.
Bien. Alors, le deuxième attentat, donc, c'est contre la vitrine,
oui.
Les pavés.
Oui, les pavés, la vitrine éclatée, Là aussi, les amis qui arrivent très très vite. Hein.
Oui.
Très très vite. Il y en a. Bon. En peu de temps, ils ont réussi à mettre des panneaux pour fermer la librairie, pour qu'on puisse partir. Parce que la police ne voulait pas garder la librairie. Ils ont dit, ils ont qu'à se manier. Très élégant. Bon.
Oui, ça, la police...
Oui, ils ont qu'à se manier, ben, on s'est manié. Et puis, on s'est manié avec les copains, parce que là, ça aussi, c'est formidable. Cette espèce de...
D'élan de solidarité.
Je ne sais pas, ce téléphone... Téléphone arabe, c'est un téléphone qui... Quand on parle de téléphone arabe, on parle d'un téléphone... qui passait de crête en crête pour annoncer les événements dans des pays de l'Orient. Et donc, moi, je compare un peu, parce que là, on n'était pas sur des crêtes, mais il y avait quand même... On n'était pas encore très outillé au point de vue de l'informatique. Mais voilà, le téléphone arabe, c'est chacun qui parle à son voisin, qui parle à celui dont on sait qu'il sera là quand il faudra. Donc c'était très très rapide quand même. Le lendemain de l'attentat, il y avait dans un bistrot voisin au moins une soixantaine de personnes.
Oui, et la personne qui était au bistrot, vous recevez, parce qu'elle savait que c'était pour la librairie Jonas.
Voilà.
Voilà. Mmh. Alors, les attentats, c'est une chose. Mmh. Le temps passé à réparer et à dialoguer avec les assurances... Ça a été chronophage. Oui. Ça, tu le décris très bien dans ton ouvrage. Surtout que les assurances, elles avaient tout intérêt à vous rembourser le moins possible.
C'est plus compliqué que ça, les assurances. Parce que quand il s'agit de gros dégâts, comme c'était le cas, l'expert d'assurance est rémunéré au prorata de ce qu'il obtient pour la victime. Mmh. Donc c'est pour ça que le lendemain de l'attentat, il y avait des tas d'hommes cravatés qui étaient là pour récupérer l'affaire. Donc
c'était des charognards.
Je dis un rendez-vous d'hommes cravatés, bien habillés, tout frais.
Des charognards. Allez, voilà. On va dire ça comme ça.
On dira ça comme ça.
Oui. Voilà. Bien. Donc mais. Tu expliques bien, Sabine, que tu as risqué d'avoir le même sort que ceux qui ont précédé, qui souvent étaient fermés le temps que ça soit réglé par par ces charognards-là, justement.
Oui.
Et Jonas, grâce à la solidarité, grâce à votre...
Ah oui, non, mais ça a été formidable.
C'était une bataille.
C'était formidable, parce que le lendemain même, il y a eu je sais pas combien de personnes qui nous ont... Il n'est pas question que vous ne soyez pas là.
Voilà.
Il fallait qu'on soit là tous les jours. Mais la librairie était fermée. Il y avait une petite table sur le trottoir. et puis une petite caisse pour la
solidarité.
Et on était là tous les jours, tous les après-midi, devant la librairie, à recevoir les gens. Et puis, comme parmi nos amis, il y avait beaucoup de projets par rapport à ça, pour en parler, pour le soutenir, pour, enfin, il y avait énormément de projets qui se mettaient. Donc on était là tous les jours, contrairement à d'autres lieux qui ont fermé et qui ont attendu l'assurance.
Voilà, et qui n'ont pas pu rouvrir justement.
Oui.
Voilà. Donc pour l'organisation de la solidarité et de la reprise, ça a été beaucoup de discussions. Beaucoup de fermeté aussi, parce qu'il ne s'agissait pas d'être récupéré par un clan ou par un autre.
Voilà. Oui. Ben oui, parce que moi, c'est un peu ma spécialité, j'aime bien organiser des fêtes. Donc, pour moi, chaque étape, j'appelle ça du retour à la vie, chaque étape méritait une fête. Donc, j'ai fait beaucoup de fêtes. Et c'est aussi, pas tout seul, hein, c'est aussi très accompagné. Les gens qui... En gros, on a fait des fêtes monstrueuses. On a fait une fête au square de Choisy, 800 personnes. Et donc, avec des troupes de théâtre, des chanteurs. Donc, c'était vraiment une vie, moi je dis une vie plurielle, vraiment.
Oui, ça tu dis bien pluriel dans ton ouvrage.
Oui.
Et ça c'est très émouvant. Sinon, tu as obtenu de deux, j'ai trouvé ça très très amusant. Télérama a parlé de l'incendie. France Culture, tu es passé sur France Culture pour en parler.
Oui, oui.
Bon, on retient.
D'accord.
Bon point pour ces deux.
D'accord.
Voilà. Tu parles des gens qui ont aidé à remettre de l'argent dans la caisse pour les fêtes, notamment Colette Magny.
Oui, entre autres, oui.
Voilà. Mais surtout, tu décris l'organisation... du nettoyage. Bon, ceux qui prennent un livre, qui le nettoient, très bien. Mais il y a ceux qui le prennent, qui commencent à le nettoyer, puis qui s'assoient et qui commencent à le lire. Le nettoyage n'allait pas très vite. On était dépendant des bonnes volontés. Donc c'est un tout. Et ceux qui ont trouvé des trésors, et vous ignoriez même que vous aviez des trésors dans cette librairie, jusqu'à ce qu'elle soit brûlée, si j'ose dire, quelque part. Donc
c'était une période d'échange très fort, ça. Parce que, bon, on ne voyait pas clair dans cette librairie, tout était brûlé. Bon,
oui.
Bon on nous a offert deux torches.
Oui.
Et puis, on se débrouillait comme on pouvait. Et par contre, très très vite, une fois que l'assurance nous a proposé deux choses. Hein. Soit il rembarquait tout et il nous dédommageait au prix d'achat. Quoi. Soit il déménageait une partie et pour l'autre partie, on se débrouillait pour les nettoyer, pour les vendre. Hein. On a préféré ça parce que on avait envie de garder ses bouquins et de garder la librairie ouverte, donc on avait envie de choisir cette solution-là. Et donc, ça voulait dire qu'il fallait les nettoyer, les bouquins.
Oui.
Et donc, M. Sopalin nous a beaucoup aidés, mais aussi les gens qui venaient tous les jours.
Oui, ils venaient, les ongles cassés.
Et c'était très sale, alors on lui disait, mais revenez avec votre blouse, parce que sinon vous allez ressortir. Ils allaient chercher leur blouse, et puis...
Et les gants,
ils laissaient la blouse, après le soir, il y avait des tas de blouses comme ça, et des gants de caoutchouc, bon, ils retrouvaient ça le lendemain. Donc c'était quand même une vie assez plurielle.
Voilà. Alors, ensuite, comment est venue l'idée de créer une association qui allait soutenir la librairie Jodas? Et l'association, c'est les Violons de la Baleine Blanche.
Ah oui, alors là c'est pas trop lié à l'attentat, les Violons de la Baleine Blanche. Aux Violons de la Baleine Blanche, oui. On a créé ça en 86. Ça fait donc les jeunes laines. L'idée, c'était que... C'était toujours l'idée que le collectif, c'est mieux que le singulier. Donc,
c'est très joli, je le garde.
Et donc, notre idée, c'était quand même de créer un groupe qui allait assurer...
La pérennité.
La pérennité, et puis les programmes. Et donc, au début, c'était un groupe très, très vivant. Hein. On a même fait des week-ends, on est partis très loin de Paris, on a fait des choses vraiment très... Et donc, ça crée des équipes d'animation, bien sûr. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Au violon de la baleine blanche, en 86, et qui a eu des très belles années. Hein. Ça dure encore, mais enfin, bon, parce que...
Moi, mais tu reçois du beau monde.
Ah bah oui.
Tu as reçu, il n'y a pas longtemps, le juge Van Drumbeck, que oui. Nous avions reçu dans notre émission.
Oui.
Voilà, tu as reçu Edwin Penel.
Oui. Et on va le recevoir à nouveau d'ailleurs.
Ah oui. Alors, pour ceux qui aimeraient la controverse, je vous recommande un podcast de Edwin Plenel, invité par Finkielkraut et ratatinant Finkielkraut.
Ah bon?
Une heure de pur bonheur. Il a osé le traiter de raciste. Merveilleux. Jubilé. Il n'y a que Edwin Plenel pour faire ça.
Oui.
Dire la vérité à Finkielkraut dans son émission. Et Finkielkraut s'est ratatiné. C'est bien. Ah, donc dès que tu l'invites, je viens. Il n'y a pas de souci.
Ah ben, je vais te donner la date.
Voilà, pour lui faire la bise et pour le remercier. Alors, pour l'aide à Jonas, il y a aussi beaucoup de gens qui ont essayé de faire passer des dossiers à Jacques Lang, et notamment Edmond Charleroux.
Ah oui, oui, oui.
La défunte Edmond Charleroux.
Ben oui, parce que mon ex-mari l'a rencontré dans une rencontre littéraire, et il lui a confié le dossier, quoi. Mm-hmm. Oui. Alors, je me rappelle plus très bien si cela a permis d'en parler au Salon du Livre. Mm-hmm. Au Salon du Livre, on a eu le micro et un petit stand.
Alors, la librairie Jonas aujourd'hui, Sabine, oui. Qu'est-ce que c'est pour nos éditeurs? Pour leur donner envie d'aller à Publico et à la librairie Jonas.
Bon, la deux librairie Jonas, elle est maintenant confiée à un gérant qui gère avec sa femme d'ailleurs, parce qu'ils sont tous les deux libraires. Et donc d'abord, je dois dire que c'est un excellent libraire. Donc ça, c'est quand même important de le dire, parce que il sait conseiller, il sait parler des livres.
C'est quand même le minimum pour un libraire.
Mais ils sont pas tous ce talent. Hein.
Alors, je dois reconnaître que à Publico, nous avons deux excellents libraires, Laurent et Christophe, qui est l'avenir des libraires et qui font divinement leur travail aussi. Voilà, et qui sont encadrés par encadrent les bénévoles, dont moi, à Publico. Voilà. Donc, revenons au gérant de la librairie Jonas.
Oui, donc, je disais que c'était un excellent libraire. D'autre part, je pense que par rapport aux idées politiques, je pense qu'on est sur le même... On est dans le même bateau, quoi.
D'accord.
Quand il y a des grandes grèves, comme il y en a eu, il ferme la librairie et il va manifester. Voilà, donc on est tout cœur, il est tout cœur. Ben, sinon, qu'est-ce qui se passe? Nous, on continue les violons de la baleine blanche. Mmh. C'est un petit peu...
Et d'ailleurs, le 14, oui. Tu continues, oui, mais oui. Sauf que la maîtresse de cérémonie, ce sera moi. Parce que tu dédicaces ton livre.
Ah oui, oui.
Oui, oui,
oui, parce que en fait, mon livre, c'est quand même une vieille histoire. Donc, il y a plein de personnes nouvelles dans la librairie qui ne connaissent pas du tout. Oui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas.
Faire une soirée
J'ai fait une réimpression. Voilà. Et puis, que de temps en temps, je me mets le nez dedans, je me dis, oh, c'est pas si mal. Donc...
C'est même très bien, Sabine. Sinon, je ne t'aurais pas invitée. Tous non. ceux qui savent mon travail et comment je sélectionne mes invités savent que je sélectionne les invités, c'est le haut du panier. Donc, t'inquiète pas, c'est excellent.
Voilà, donc...
Le 14 avril, donc, à partir de 18h, tu vas commencer à oui. dédicacer...
À partir de 18h, pour les gens qui ne peuvent pas rester le soir, voilà. je dédicacerai en m'avardant, quoi, ça, quand je peux faire... Et puis, à partir de 20h, ben,
là, c'est une vraie soirée.
Voilà, j'aimerais bien présenter le livre en dialogue avec toi.
Je serai présente.
Merci. Parce que c'est toujours mieux en dialogue.
Oui. Voilà.
Voilà, donc je te remercie.
Oh non, mais c'est un honneur. C'est un honneur.
Et voilà, donc je pense qu'il y aura du monde parce que c'est quand même... C'est quand même pas tous les jours.
Ah, c'est pas tous les jours qu'on a un livre qui parcourt autant de courants politiques et où il y a autant de personnalités que les jeunes générations ne connaissent pas, mais qu'elles auraient intérêt à connaître. Ne serait-ce que M. Maspero.
Ah oui, voilà. François Maspero.
Ouais.
C'est un grand bonhomme, ça, François Maspero.
Oui, ouais. Tout à fait. C'était un éditeur engagé, comme les éditeurs, comme les éditions de Minuit.
Oui, j'ai vu les éditions de Minuit.
Dont on a
et
fêté...
puis les éditions de Minuit, non seulement engagées, mais avec une fidélité, un style d'écriture quand même. Et,
ben oui.
Moi, j'aime beaucoup l'écriture des auteurs. Des auteurs de chez Minuit, parce que...
Ben, à commencer par Vercors et Le silence de la mer.
Ah oui.
Voilà.
Voilà.
Premier livre que j'ai lu des éditions de Minuit et qui m'a donné envie de lire tout le catalogue. Voilà. Et notamment la nouvelle Le silence de la mer, parce que c'est un livre de nouvelles. Le silence de la mer. Nouvelle puis... qui a été adaptée par le grand cinéaste qui n'a pas suffisamment d'aura en France... Le cinéaste qui a fait Le Cercle Rouge et L'Armée des Ombres.
Oui, oui.
C'est...
Oui, oui.
Allez.
Bon, mais c'est pas grave. On sait qui a fait sa fille, on s'en souvient.
Oui, mais... ça y est, j'ai un trou. Oui. Quelle horreur.
On a des trous comme ça. Non, mais je voulais revenir. Là.
Melville, merci Jean-Mi. Jean-Pierre Melville.
Oui, je voulais revenir à Jean-Pierre Melville, non ?
Oui, Jean-Pierre Melville.
Non, c'est pas ça que j'avais dans la tête.
Alors, tu voulais revenir sur Maspero et sur les éditions de Minuit ?
Les éditions de Minuit, oui. Parce que les éditions de Minuit, c'est quand même... on leur doit beaucoup. Enfin, je veux dire, Alain Don, on lui doit beaucoup. En particulier, le prix du livre. C'est une grande conquête, le prix du livre. Mmh. C'est-à-dire le prix unique. Le livre doit être vendu le même prix, que ce soit à Marseille, à Toulon. Et grâce à ça, les libraires sont restés... enfin, beaucoup de librairies qui seraient fermées s'il n'y avait pas ce
prix
loi.
Unique du livre.
Hein? C'est Jack Lang.
Comment loi qui a été prise
Jacques Lang, oui.
Loi qui a été prise par Jacques Lang,
oui, oui.
Mais qui a l'initiative de Lindon.
Voilà, exactement. Et c'est vraiment, on dira jamais assez combien c'est important.
Bien.
Parce que les pays qui n'ont pas cette loi,
les librairies indépendantes ont fait faillite.
Oui, et puis le travail éditorial s'en ressent.
Oui. Hein?
Je pense aux États-Unis. Comment ?
Aux États-Unis, notamment.
Notamment, oui, aux États-Unis. Dans beaucoup de pays, d'ailleurs.
Oui.
Donc, il doit beaucoup cette...
Alors, il y avait une anecdote très drôle que j'ai oublié d'évoquer. C'est-à-dire que à un moment donné, les livraisons sont suspendues puisque la librairie est fermée.
Oui, oui.
Mais la première livraison vient des éditions de l'Auto da Fé.
Oui, exactement.
Ah, j'ai trouvé ça délicieux.
Ah oui, ça c'est vrai que c'était extraordinaire. Et puis alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Je dis aussi qu'à une période où, pour parler de l'attentat, on envoyait le livre brûlé à son auteur. Mais pas n'importe quel auteur. Hein. L'auteur pour lequel ça avait du sens, quoi.
Tout à fait.
Donc on a quand même envoyé des livres brûlés à pas mal d'auteurs. On a eu des réactions, hein, mais c'est...
Oui, de solidarité.
Ça valait la peine de le faire, en tout cas.
Tout à fait, exact. Tout à fait exact. Bien, donc, je rappelle que le 14 avril, à partir de 18h, tu seras à la librairie Jonas pour dédicacer ton ouvrage, L'année des cocktails, quand on brûlait les livres, avec la préface de François Maspero.
Avec un petit coup à boire.
Voilà, à partir de 20h, donc il y aura une animation avec moi.
Oui.
Donc ceux qui veulent me rencontrer en chair et en os, plutôt en chair qu'en os, pourront aller à la librairie Jonas. S'ils veulent me rencontrer en chair, ils peuvent tous les vendredis à partir de 13h être à Publico. Il n'y a pas de souci, j'y suis.
D'accord.
Sauf accident, j'y suis aux côtés de Christophe et j'assure le mandat que m'a donné le groupe Louise Michel en tant que bénévole auprès de Publico. Voilà. Donc... Sabine, est-ce que tu as une dernière chose pour Jonas ?
Une dernière chose pour Jonas, ben, je lui souhaite longue vie.
Oui, et donner peut-être son adresse à nouveau.
Oui, à nouveau. Donc c'est tout près du métro Tolbiac, au 14 et 16 rue de la Maison Blanche. C'est une petite rue, mais c'est vraiment dans la rue Tolbiac, tout près du métro Tolbiac.
Voilà. Bien, cette émission a été réalisée grâce à la présence... précieuse et constante de Jean-Mi.
Merci.
Grâce à une invitée exceptionnelle, Sabine. Merci Sabine, vraiment.
Merci.
Donc, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et faites attention à vous. Merci beaucoup.
Merci Mariama.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interroger les rues d'un gain, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, s'il les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tard, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse fout de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi j'ai joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes de toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site rl.fédération-anarchiste.org.
Il y en a plein sur 100 et pourtant ils existent. La plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas. Les anarchistes.
Y'en
a pas un sur 100 et pourtant ils existent. La plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas. Les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets, des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et le rêve vomitant. Puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Y'en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. La plupart fils de rien. Ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais. Que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au point sur la table ou sur rien. Avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par des coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir. La mélancolie pour traîner dans la vie. Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié. Des armes rouillées pour ne pas oublier. Qu'il y en a pas un sur cent et pourtant ils existent. Et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous. Joyeux et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout. Les anarchistes.
Sur place.
ACAB.
Soutenez ACAB.
Mmh.
chez de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ce qui passe à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deugnon, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore.
اسمد له لغذا السمشور ما j'ai mis de l'eau à leur veste à mes jours. Le cousin de Jimmy's Erle Moum, avec nous dit Lukanu li wadhaq ittum Lukanu li wadhaq ittum Athjir ghadakhl l-kanun Hakinu rsit hissi yisagra Imis sora wijgum Le boudez de jèvre noum Et mourdis yannara Thikil l'akhmidi thamzayou Khalas gawni nourdoua Thikismi maulaniou Thamhamayna kusser maga المحنة فنجر يغسيو وقبل الدرس المذيو حين ياكو يجمع وليو السيل سيواتي نغمغ السيل سيواتي نغمغ دي مرزمير غاتز نسرغ دي لعيدة نبت غروان الناس غاكون غفرغ هاي مولانا عزيزان دي ثفات مارا نبتغ خست مشك ثمور وهمغ ماشي ذو ذمسي روحه هاد مليل انت ولن الوان هاد مليل انت ولن الوان صبك نور ذي تجد سعقال همي نذير والفليل هم الطوثي والحلال ويسن كان مدم كثير هذا سن السخر بغن شوال هذا سن يعرق ووال فكر اما نمي عقل تدر ثاد عجل ورين سيرم ترجثي وفل را يفتري زمان يسم يفكي الحرزة دوفا ثبور ثلحس في اللزم فلس طورك ثوثو شم ثلاث استنيا تسجم طل عماري ثم اركا طل عماري ثم اركا ثبور ثلحس في اللزم فلس طورك ثوثو شم ثلاث استنيا تسجم طلع ماري ثم رجع طلع ماري ثم رجع Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée, un fait. Et c'est pour cela que je me sens franchement et toujours le patriote de toutes les patries opprimées.